Comment allez-vous bien ce matin? Bien, très bien. Alors vous savez qu'il y a trois mentions, comme au bac. Là c'est bien, le très bien. J'espère qu'on va très bien ce matin. J'espère que nous allons très bien. Oh, mon beau miroir. Mon beau miroir. Ça vous rappelle un film, ça? Ça vous rappelle votre jeunesse? Oh, mon beau miroir. Qu'est-ce qu'il me dit, mon miroir, ce matin? Qu'est-ce qu'il veut me dire, mon miroir? Rappelez-vous, c'est dans quel dessin animé? Blanche-Neige et les sept nains. Oh, je ne vais pas vous demander le nom des sept nains, ce n'est pas le sujet. Voilà, le matin, vous avez remarqué que le matin est un jour très, très, très... C'est un moment très important dans notre vie. Alors, pourquoi il est très important, ce moment, le matin? Parce que nous entrons dans la salle de bain et nous sommes face à face avec nous-mêmes. Là, il n'y a pas de secret, c'est la réalité. Nous nous voyons là, là, face à face. Nous sommes devant la glace qui reflète exactement, physiquement, tel que nous sommes aujourd'hui. Il n'y a pas de... Voilà, nous sommes là tel que nous sommes aujourd'hui. Certains matins, vous avez remarqué, sont plus difficiles que d'autres. Notamment pour ceux qui sont sortis hier soir. Hein? Alors, le matin... Bon, mis à part le petit déjeuner qui est très agréable, mais quand nous sommes devant la glace, est-ce un moment agréable pour vous ou est-ce un moment désagréable? Nous sommes devant le miroir. Si tu veux plus de précision, Jacques, nous sommes devant le miroir. Alors, tout dépend aussi si nous nous sommes levés du pied droit ou du pied gauche. Ça peut avoir une importance. Hein? Que voyons-nous? Que voyons-nous en face de vous, en face de nous? Est-ce bien nous? Est-ce bien nous? La glace... Est-elle déformée? La glace est-elle déformante? Est-ce bien nous? Que sommes-nous devenus depuis toutes ces années? Elle, la glace, n'a pas bougé. Mais nous, est-ce que nous avons bougé? Mis à part les stigmates de l'oreiller, quelquefois on a des plis là comme ça, là, là, ça va se passer, oui, avec quelques heures après ça va aller mieux. Quelquefois on a des nuits agitées, hein, on se bat avec le polochon, hein, quelquefois, bon, l'autre il ronfle à côté un petit peu trop, on lui balance un coup de coude, hein, bon, on a des nuits quelquefois agitées. Bon, mais notre visage reflète-t-il la réalité de ce que nous sommes? La réalité de notre âge, la réalité de ce que nous vivons? Comment les marques du temps nous ont-elles impactés? Physiquement, nous avons bien vieilli, hein? Nous sommes beaux. Hein? Nous sommes beaux, nous avons bien vieilli. Et puis d'autres disent « Oh mais punaise, j'ai un peu de superflu. » Dans ce moment-là, on ne met pas une glace totale, on met juste un buste. Comme ça, on ne se voit qu'à moitié, on est tranquille. Vous voyez? On a peut-être quelques rides. Hein? On en parlait ce matin, mais ça, on ne les fait pas trop remarquer. On ne veut pas faire mal au cœur. On a peut-être les cheveux qui blanchissent. Peut-être comme certains cheveux qui tiennent pas plus beaucoup à nous, vous voyez. Mais ça, bon, ce sont les marques. Pourquoi tu te caches derrière Monique, Jacques? Hein? On le sait. Monique, autant de service, elle te cache. Voilà. Peut-être que notre façon de nous regarder le matin dépend de notre morale. On est peut-être de bonne humeur, ou alors on a peut-être le moral dans les godasses. Ça peut arriver, ça, hein, d'avoir le moral dans les godasses. Mais ce sont les marques du temps. Et chacun a remarqué que le temps court. Le temps court, ça roule. Mais notre œil est-il toujours aussi pétillant? Ça, c'est pas une question d'âge. On peut avoir bon pied, bon œil. C'est pas une question d'âge. Alors nous nous apprêtons peut-être devant cette glace à mettre notre masque. Parce que le masque que nous allons mettre va pouvoir peut-être nous permettre de surmonter, d'assumer la journée que nous avons devant nous. Alors quel masque allons-nous mettre ? Nous allons mettre un masque de clown ? Nous voulons faire peut-être rire les gens ? Nous allons peut-être nous cacher derrière ça ? Nous allons peut-être mettre un masque joyeux ? Nous allons peut-être mettre un masque de tristesse. Mais que voyons-nous en face de nous ? Quel est l'homme et la femme là en face aujourd'hui ? Mais pouvons-nous, un instant, imaginer que nous pouvons voir au-delà du miroir, au-delà de la personne là qui fait une grimace ou qui nous fait un sourire ? Pouvons-nous imaginer que nous puissions voir au-delà de la réalité de notre perception de qui nous sommes. Qui suis-je réellement ? Qui suis-je réellement ? Quel est l'état de mon cœur ce matin ? Quel est l'état de mon cœur ? Est-ce que mon cœur est dans la joie ? Est-ce que mon cœur est dans la tristesse ? Moite-moite ? Moitié-moitié ? Quel est notre état d'esprit ? C'est-à-dire, quel est notre esprit ? Oui, quel est notre état d'esprit ? Comment va mon âme ce matin ? Est-ce que j'ai encore la volonté de me battre ? Quelles sont mes émotions ce matin ? Quelles sont mes fragilités ? Quelles sont mes émotions ? Et alors mon intelligence ? Mon intelligence, est-ce que je regarde encore objectivement les choses ? Et comment va mon corps ce matin ? J'ai mal où ? J'ai mal où ce matin ? Comment va mon corps ? Qu'est-ce qui me fait grincer là ? Devant moi. Je ne parle pas des clubs, t'as mal ou t'as bobo. Alors vous allez me dire, Pascal, ce matin, mais qu'est-ce que tu nous poses comme question ? Oui, je vous avouerai, je l'ai fait exprès. Pourtant, nous nous posons toujours et régulièrement les mêmes questions. Moi, je suis étonné quand j'entends certains chrétiens qui sont encore perdus. Ils sont chrétiens, oui. Mais ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent ils n'ont pas répondu, ils n'ont pas reçu la révélation de qui ils sont et de pourquoi ils sont aujourd'hui sur cette terre. Et nous nous posons souvent la même question. Plus ou moins. Mais pourquoi suis-je sur cette terre ? Il y a des matins, vous êtes devant la glace, vous vous regardez... Mais punaise, mais qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fais là encore ? Cette journée, elle est bonne, elle sera bonne, oui, mais peut-être pas. Mais qu'est-ce que je fais encore ici ? Pourquoi je suis là ? Avons-nous la réponse ? Regardons au-delà du miroir. C'est le thème de mon message ce matin. Et tout commence avec Dieu. Parce que Dieu est notre créateur. Parce que Dieu est un Dieu merveilleux. Parce que nous sommes sa création. Parce que nous avons été créés à son image. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui des créatures si merveilleuses. Et c'est ce que nous devons nous dire tous les matins quand nous nous regardons dans la glace. Amen. 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 Ses œuvres, nous dit la parole, ses œuvres sont admirables et mon nom et mon âme le reconnaît bien. Amen. Est-ce vraiment cette personne que nous voyons tous les matins dans la glace ? Pourtant, nous avons été créés par lui et pour lui. Et nous avons été créés pour le plaisir de Dieu, pour son plaisir. Est-ce la personne que nous voyons le matin dans la glace. Qu'est-ce que Dieu a créé le sixième jour ? Qu'est-ce qu'il a créé le sixième jour ? L'homme, il nous a créé le sixième jour. Il a créé l'homme le sixième jour. Alors ce matin, je vous propose de lâcher nos raisonnements. Parce que tout commence vraiment avec Dieu. Et ça, c'est une réalité spirituelle que nous allons retrouver dans la Bible. Ce sont les premiers versets de la Bible, mes frères et sœurs. Tout commence avec Dieu. Prenez Genèse, si vous voulez bien, au verset chapitre 1. Nous n'allons pas le lire en entier. Verset 26. Dieu dit, Elohim, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Dieu les bénit. À l'origine, Dieu nous a bénis. Oh ! Et ensuite, au verset 31, Dieu dit, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Et c'est le sixième jour. Dieu nous a créé le sixième jour. Pourquoi ? Parce qu'il a terminé, parce qu'il y avait de mieux. Le plus beau de sa création, c'est nous, frères et sœurs. C'est toi, ma sœur. C'est toi, mon frère. Nous sommes les plus belles créatures de ce qu'il a créé. C'est ça que notre Père a voulu. Amen. Amen. Je vis que ce qu'il avait fait était bon. C'était très bon. Il termine sa création parce qu'il avait de meilleur. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fit ? Le septième jour. Mais il se reposa. Ah, le sixième jour. C'est important, le sixième jour. Nous sommes, frères et sœurs, sa plus belle création. Ça doit rentrer dans le cœur de chacun ce matin. Nous sommes sa plus belle création. Nous pouvons dire peut-être que c'est au-delà du très bien, que c'est très, 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 très bien. Dans Colossiens 1, au verset 6, la parole nous dit « Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux, comme sur la terre, les visibles, les invisibles. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Tout. Tout. Et rien n'échappe à l'œuvre de Dieu en son Fils Jésus-Christ. Rien n'échappe à la création de Dieu. Rien. Tout être vivant, qu'il soit conscient ou non, dépend de lui à chaque instant pour son existence, frères et sœurs. Chaque fois que vous respirez, le matin, quand vous ouvrez les yeux, quand vous respirez, c'est parce que Dieu le veut bien. C'est une grâce, parce qu'il nous aime. Amen. Dans Actes 17, verset 28, il est dit, « En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Amen. Beaucoup de philosophes, durant ces derniers siècles, ont cherché un sens à l'existentialité de l'homme. Beaucoup. Des tas de bouquins ont été écrits. Ces gens-là, même s'ils sont agnostiques, même s'ils sont athées, nous rendent service parce qu'ils nous permettent d'avoir un moyen de réflexion par rapport au sujet qui nous intéresse. Plus riche est l'opposition, plus riche est nous. Notre réflexion et notre décision, ça sert à ça. Demandons le discernement, mais ne rejetons rien. Il y a eu un homme qui s'appelle Bertrand Russell. Bon, c'est pas parce qu'il est anglais qu'il est compliqué. Tu m'excuseras, Robert, mais il est quand même compliqué. Il est quand même compliqué parce qu'il se dit agnostique et en pratique, il est athée. Bon, allez chercher, je ne vous donnerai pas un cours biblique sur l'athéisme ni sur l'agnosticisme, mais bon, c'est compliqué. Il y a d'autres personnes dans le monde qui sont compliquées. Hein. Enfin, notre frère Robert ne l'est pas. Il a milité pendant toute sa vie sur les religions, sur les différentes formes de religions. sur la cruauté, sur le sadisme que certaines pouvaient apporter. Ça pouvait inspirer la peur, ça pouvait inspirer l'ignorance, la peur dans l'ignorance. Et je vais vous citer ces propos qui sont quand même positifs. Il dit, on peut espérer que le bien restera. On peut espérer que le bien restera sur terre. C'est-à-dire que le bien triomphera sur notre terre. Il est agnostique, il est pratiquant dans l'athéisme. Mais moi, ça me plaît ce qu'il me dit. Vous voyez ? Par lui, pour lui, on ne peut prouver l'existence de Dieu ou des dieux, mais il est fermement convaincu de leur existence. Là, on est plus, vous voyez, dans l'agnosticisme que dans l'athéisme. Je cite de nouveau ce monsieur Russell. Il dit, il est compliqué, mais pour nous, ça paraît simple. Si vous ne partez pas du principe qu'il y a un Dieu, mais votre vie n'a aucun sens. Et c'est, il est agnostique et en pratique athée. Prenons un exemple, je regarde l'heure qui tourne. Prenons l'exemple de sœur Emmanuelle. Sœur Emmanuelle était une intellectuelle, vous savez son parcours en Égypte, et puis elle a été confrontée à beaucoup de scientifiques qui sont venus la voir, lui dire, vous savez, moi je vais venir vous prouver que Dieu n'existe pas. Et elle a eu différentes versions, différentes théories, et puis voilà, Dieu n'existe pas. Et puis elle se démontait pas. Et vous savez pourquoi elle se démontait pas ? Parce qu'elle avait Jésus dans son cœur. Et parce que Jésus était vivant en elle. Et ça, c'était la preuve. Et c'était sa foi qui était en elle. Amen. Sœur Emmanuelle avait trouvé un sens. Et le sens de sa vie, c'était de servir Dieu. On peut croire, mes amis, que c'est pas nous qui décidons. C'est pas nous qui décidons. Ou alors nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Parce que notre vie ici sur terre, elle dépasse de loin notre épanouissement personnel. Elle dépasse de loin notre paix intérieure, notre bonheur. Notre existentialité dépasse nos rêves, nos ambitions. Et si nous voulons savoir pourquoi nous avons été placés sur terre, eh bien nous devons commencer par interroger Dieu, parce que nous sommes nés par lui et pour lui, et nous ne sommes pas le fruit du hasard. Non, jamais. Alors, la quête de sens attire beaucoup de personnes. Je vous ai parlé, on ne va pas rentrer dans les détails, le créationnisme, l'évolutionnisme. Il faut savoir que tous ces adeptes, même entre eux, ne sont toujours pas d'accord aujourd'hui. Mais nous sommes d'accord avec Jésus, et ça, c'est le principal. Et tout le point central, c'est toujours, pourquoi suis-je sur terre ? Mais ces gens-là ont toujours un problème, parce qu'ils partent toujours du mauvais point de départ. Ils ne sont pas dans le bon sens, ces gens-là. Ils se demandent toujours, qui suis-je ? Le but de leur existentialité, mais que vais-je devenir ? Mais après la mort, qu'est-ce qui se passe ? Que vais-je faire de ma vie ? Quels sont mes objectifs, mes ambitions ? Alors, moi je peux vous dire, c'est que c'est pas en se centrant sur nous-mêmes que nous aurons la réponse. Nous découvrons le vrai sens de la vie en interrogeant la personne qui nous a créés. Dans Job 12, verset 10, il est dit, il tient en son pouvoir la vie et tous les êtres, le souffle qui anime le corps de tout être humain. Alors, contrairement à beaucoup de romanciers, oui, c'est la romance, beaucoup de livres, beaucoup de New Age, Beaucoup de gens cherchent à découvrir le sens de leur vie à travers ces livres. Beaucoup ont essayé, et ça conduit plus ou moins à long terme des échecs. Comme nous ne sommes pas créés nous-mêmes, nous ne pouvons absolument pas déterminer pour quelles raisons nous avons été créés. Alors j'ai cherché des objets insolites ce matin, ça n'a pas été facile. Qu'est-ce que ces objets ? Qu'est-ce que ces objets ? Un atome d'hydrogène, d'oxygène ? Non. Non. Qu'est-ce que c'est que ces objets ? Qu'est-ce que c'est que cet objet ? Je pensais que Jacques allait nous le dire, mais non. Qu'est-ce que c'est que cet objet ? Vous voyez, peut-être comme ça. Si je vous montre des inventions que vous n'avez jamais vues auparavant, vous ne pourrez jamais me dire à quoi ça sert, à moins que d'être initié. À moins que d'être initié. Alors nous spéculons. C'est ce que tu es en train de faire, Robert. Tu spécules, tu dis, oui, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors vous voyez, il n'y a que le créateur de ces objets qui pourrait vous dire exactement à quoi ça sert. Non. Ça, c'est un bouchon pour boucher les tonneaux de vin. Et je pensais que tu allais nous le dire, Jacques. Ce matin, je discutais avec Michel. J'ai dit, il n'y a que Jacques qui va nous dire la réponse. Eh ben non. Ça ici, c'est un objet qui vient du Jura, c'est pour mettre les télécommandes. Et ça, c'est pour masser. Enfin, je ne l'utiliserai pas, j'aurais peur de me faire mal. Vous voyez, ce que j'essaye de vous expliquer là, ce matin, c'est qu'il n'y a que le créateur, ou moi, qui a lu la notice, qui puisse vous dire à quoi ça sert. Seul. Alors, on est vraiment là dans la spéculation. Nous ne pourrons jamais trouver un sens propre à notre vie si nous n'interrogeons pas celui qui nous a créés. Amen. Nous existons parce qu'il le veut bien. Nous avons été faits par Dieu et pour Dieu, et tant que nous ne le comprendrons pas, nous aurons vraiment du mal à trouver un sens à notre vie. C'est seulement le Seigneur et par le Seigneur que nous découvrons notre origine, notre identité, notre signification, notre raison de vivre, notre valeur, notre destinée et notre destination. Tout autre chemin mène à une impasse. Tout. Beaucoup de gens essayent d'employer le Seigneur pour parvenir à leur fin. Mais c'est le contraire à l'ordre des choses. Nous avons été faits pour Dieu et pas l'inverse. Non, pas l'inverse. Nous avons été faits pour Dieu pour accomplir les desseins de Dieu. Mais Dieu n'est pas là pour accomplir nos desseins personnels. Ça ne marche pas. La Bible nous dit dans Romains 8, verset 6, « Se préoccuper des désirs de sa propre nature mène à la mort. » Mais se préoccuper des désirs du Saint-Esprit mène à la vie et à la paix. Amen. Amen. Michel a fait un stage au Furet du Nord il y a quelque temps. Et elle me disait un soir, cet incroyable nombre de livres qui passent sur la caisse, des livres axés sur l'exotérisme. Aujourd'hui, les gens sont vraiment dans une recherche de spiritualité. Je suis qui ? Je fais quoi ? Pourquoi suis-je sur terre ? Et tous ces livres veulent nous donner un moyen de comprendre les choses, mais tous ces livres ont une dimension égocentrique. Tous ces livres nous demandent de nous retourner sur nous-mêmes. Toujours ces livres sont centrés sur nous. Réfléchissez à vos rêves. Déterminez vos valeurs. Trouvez vos points forts. Soyez ambitieux. Baissez pas les bras. Bien sûr, c'est une évidence. Ça peut porter des bonnes choses. Oui, ça peut porter des bonnes choses. Ce sont des bonnes recommandations. Mais attention, on peut être tout à fait performant. Mais ce n'est pas forcément pour accomplir ce pourquoi nous sommes sur Terre. On peut, non pas rater la cible, mais c'est péché, mais rater, oui, peut-être rater l'objectif de Dieu. Nous pouvons atteindre tous nos objectifs personnels et avoir un succès fou d'après les critères du monde, tout en manquant le but pour lequel le Seigneur nous a créés. Vous vous rendez compte de ça? Et il faut plus que de l'aide personnelle. Comment allons-nous découvrir le but pour lequel nous avons été créés? Pour devenir ce que Dieu veut réellement que nous soyons. Alors vous voyez, je vous ai parlé de la spéculation. La spéculation, elle est là, la spéculation. Ah, c'est peut-être ceci, ah, c'est peut-être cela. Nous formons des hypothèses. Nous devinons, c'est peut-être pile, c'est peut-être face. Nous avançons des théories. Ça m'a... Un jour, dans un livre, ça m'a fait sourire. Il y a une femme d'un beau monde, une grand-mère, elle poussait la poussette. Et il y avait deux gosses dans les poussettes. Et puis il y a une amie, bon chic, bon genre, du même niveau social. Elle dit, ah bonjour, ce sont vos petits-enfants? Ah oui, c'est mon petit-enfant. Ben écoutez, je vous présente Charles-Édouard, médecin. Et je vous présente Henri, chirurgien. La grand-mère avait déjà décidé que ses deux petits-enfants allaient être médecins et chirurgiens. Hein? Quelle ambition! C'est de la spéculation. Nous déclarons toujours, j'ai pensé que ma vie serait peut-être ceci, serait peut-être cela. On fait des hypothèses. C'est peut-être la meilleure des choses qui me soit venue à l'esprit. Oh, c'est peut-être notre destin. Alors, depuis des milliers d'années, il y a des philosophes qui ont essayé de régler le problème. Il y en a un qui a envoyé des courriers à 250 autres philosophes d'un grand nom et les courriers sont revenus. Certains avaient trouvé des solutions sur leur existentialité. D'autres avaient aucune idée. Et certains ont même dit à ce docteur en philosophie, si vous avez la réponse, vous serez gentil, vous me la donnerez. Trouver un sens à notre vie n'est pas dans la spéculation. Mais on peut opter pour la révélation spirituelle, aller rechercher vraiment le cœur de Dieu et pourquoi il nous a créés. Ah! Et ça, c'est la façon la plus simple de découvrir la raison d'être d'une invention consiste à interroger notre Créateur. Alors si Dieu est notre Créateur, nous sommes bien sûr sa création. Alors pourquoi ne pas interroger notre Créateur? Pourquoi sommes-nous sur terre? Seigneur, pourquoi tu nous as créés? Seigneur, pourquoi aujourd'hui je suis devant ma glace? Pourquoi? Là, voilà. Seigneur, pourquoi? Quel est le sens de notre vie, Seigneur? Dieu ne nous laisse pas dans le noir à faire des spéculations. Et Dieu nous donne sa parole vivante. Jésus qui s'est fait chair sur la terre, homme, Dieu parmi les hommes. Et il nous révèle clairement ses cinq objectifs pour nos vies. Il nous donne le mode d'emploi. Mais vous savez, la Bible, c'est comme un parachute. Pour que ça marche, il faut l'ouvrir. Sinon, ça ne marche pas. Il nous explique pourquoi nous sommes sur terre dans la Bible. Il nous explique comment fonctionne notre vie. Il nous explique comment fonctionne la famille, le couple, l'homme, la femme. Comment nous devons aimer nos enfants. Il nous explique quelles sont les erreurs à éviter. Il nous explique que devons-nous attendre de l'avenir. il nous dévoile aucune théorie X, Y, Z ne pourra nous expliquer comme Dieu pourquoi nous sommes sur terre. La Bible dit, j'annonce la sagesse secrète de Dieu cachée aux hommes. Dieu l'avait déjà choisi pour nous faire participer à sa gloire avant la création. Avant la création du monde. Dieu n'est pas seulement le point de départ de notre vie. Il en est la source. Il en est la source. Pour découvrir le but de notre vie, nous devons nous tourner vers la sagesse de Dieu et non la sagesse du monde. Amen. Nous devons baser notre vie sur des valeurs éternelles et non sur les méthodes psychologiques et philosophiques. Non pas sur l'appât du gain. Non pas sur les bonnes histoires qu'on vous a racontées. Mais sur le cœur de la parole du Seigneur. Nous sommes destinés d'avance par lui pour lui appartenir. Nous découvrirons notre identité, notre finalité au moyen d'une relation avec Jésus-Christ. Parce que Dieu pensait à nous bien avant que nous songions à lui. Il avait un plan pour notre vie. Avant même que nous soyons conçus, nous le verrons après dans le psaume 139. Il avait tout prévu avant notre naissance. Frères et sœurs, nous pouvons choisir notre métier. Nous pouvons choisir notre femme. Oui, c'est un don de Dieu, le mari c'est pareil, notre mari. Mais pas notre raison d'être. La raison de notre existence sur terre. La finalité de notre vie rentre dans un plan large, immense de Dieu. Et c'est un plan, c'est un objectif à l'échelle que seul Dieu a prévu pour toute éternité. Alors je vois que le temps qui tourne et je vous donnerai en conclusion. Quel est le sens de notre vie? Est-ce que tu veux bien m'ouvrir la bouteille, s'il te plaît? Quel est le moteur qui nous fait avancer aujourd'hui? Merci. Quel est le moteur qui nous fait avancer aujourd'hui? Oui, nous avons parlé de grâce ce matin. Alléluia. On ne peut rien faire sans la grâce de Dieu. Dieu nous a donné la foi. Oui, Dieu nous a donné la foi. C'est un don de Dieu. Mais quel est le sens de notre vie aujourd'hui? La vie sans Dieu, frères et sœurs, n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens. Nous avons été faits, et je le répète, par Dieu et pour le plaisir de Dieu. Et il prend plaisir à nous voir. Rémi, Dieu prend plaisir à te voir. Sabine, Dieu prend plaisir à te voir. Comme je disais ce matin, il prend plaisir à nous écouter. Il prend plaisir à écouter notre cœur. Amen. Malgré tous les messages contraires, comme sœur Emmanuel, tous les messages contraires que nous pouvons entendre autour de nous, la vraie vie consiste à vivre pour Dieu, à l'aimer et à être aimé par lui. Amen. C'est la réalité de notre nouvelle naissance. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté, ni de la chair, mais de Dieu. Amen. Alors chaque matin, quand nous nous retrouvons devant notre miroir, et quand nous l'interrogeons, nous devons chasser les doutes. Nous devons douter de nos doutes et chasser les doutes au nom de Jésus. Nous devons chasser toutes les voix qui viendraient nous dire le contraire au nom de Jésus. Nous savons, frères et sœurs, d'où nous venons. Nous connaissons notre destinée, notre vie. Et nous savons notre destination parce que aujourd'hui, grâce à Jésus, nous vivons à la lumière de l'éternité. Amen. Et si nous n'avons pas la tête des beaux jours certains matins, regardons encore au-delà du miroir. Imaginons comment Dieu nous voit, comment Dieu nous regarde, avec son cœur d'amour, ses yeux de père. Imaginons. Respirons un grand coup et recevons la conviction par le Saint-Esprit que nous sommes des bien-aimés du Père. C'est notre Père céleste qui nous a formés, qui a formé nos reins, qui nous a tissés dans le sein de notre mère. Louons le Seigneur de ce que nous sommes des créatures si merveilleuses. Oui, le matin, Pascal, tu es une créature si merveilleuse. Ayons la conviction qu'au-delà de notre image, Dieu, tous les matins, veut nous bénir. Là, tel que nous sommes. Et Dieu veut nous bénir et il veut aussi pourvoir à nos besoins. Parce qu'il nous aime. Notre Père nous aime d'un amour inconditionnel, même si nous sommes imparfaits, même si nous nous regardons dans la glace et nous, il nous aime même dans notre imperfection. Et nous ne sommes pas orphelins. Nous sommes enfants de Dieu bien-aimé, co-héritiers du royaume des cieux par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, c'est ce que nous devons déclarer là, devant la glace. Rien ne nous séparera de ton amour, Seigneur. Rien, rien. Et pour nous devons le proclamer par la foi, que cette journée qui s'annonce, qui s'ouvre devant nous, que toute chose, que dans toute chose, nous serons plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ah ! Nous devons reprendre confiance en nous. Nous devons reprendre confiance en nous. Et nous devons proclamer que si Dieu est avec nous durant cette journée, mais qui va pouvoir être contre nous? Dieu est au-delà de nos problèmes. Dieu est au-delà de tout ça. Amen. Vous savez que nous sommes uniques. Nous sommes uniques. Comme toute la neige qui peut tomber, tous les flocons qui sont uniques, il n'y en a pas un qui est pareil, et nous sommes uniques aux yeux de notre Père. Alors changeons notre regard tous les matins. Quand nous nous regardons dans la glace, changeons notre regard. Retrouvons notre sourire quand nous nous regardons dans la glace. Parce que Dieu nous aime. Et retrouvons notre sourire devant celui qui nous regarde sourire. C'est-à-dire nous-mêmes. Amen. Amen. Merci. Soyez bénis. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, je te demande vraiment ce matin que tu donnes la conviction à chacun de son appartenance, de son identité, de son existentialité. Pourquoi il est sur terre? Pourquoi tu l'as créé? Seigneur, toi, tu as eu des projets pour toute personne. Avant qu'il soit dans le sein de sa mère, tu le connaissais déjà. Tu avais des projets de bonheur et pas de malheur. Tu voulais bénir toutes les personnes que tu as créées, Seigneur. Toutes les personnes que tu as créées. Seigneur, maintenant, je te demande que ton Saint-Esprit puisse vraiment donner la révélation à chaque personne ici ce matin, Seigneur, que nous sommes des enfants bien-aimés et que, Seigneur, nous avons été créés par toi, pour toi et pour ton plaisir. Amen.